Ok, parfait. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki, jai,
Jai.
jai. Alors, on est à la page 31, on fait un petit retour en arrière, vite, vite, juste pour se situer dans le contexte. En Virginie, veux-tu lire juste le point 2.8, s'il te plaît?
D'accord, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Toutefois, celui qui aura l'heureuse fortune de bénéficier de la compagnie d'un pur dévot, d'un maître spirituel authentique, et sous sa direction d'observer les principes régulateurs de la conscience de Krishna, s'abstenir de tout rapport sexuel illicite, ne pas manger de viande, ne pas faire usage d'aucune substance enivrante et rejeter tout jeu de hasard, tout en s'engageant dans le service du Seigneur suprême, pourra facilement atteindre le même but sans devoir se soumettre à toutes les pratiques yogiques visant à maîtriser le mental. C'est cette méthode fort simple que recommanda Srila Rupa Goswami.
Jai, merci. Alors, ce qui est dit ici, là, c'est important. En suivant les quatre principes régulateurs, là, et la compagnie d'un pur dévot, alors ça va nous permettre d'atteindre le succès dans la conscience de Krishna. Alors là, on va sauter là où on était rendu la dernière fois, et c'est à la page 33. Le point numéro 3. Virginie, veux-tu lire, s'il te plaît?
D'accord, je vais descendre. Il est
Oups.
où? Voilà. S'abstenir de tout rapport sexuel illicite, ne pas manger de viande, ne faire usage d'aucune substance enivrante et rejeter tout jeu de hasard. Petit a, s'abstenir de tout rapport sexuel illicite. Les rapports sexuels illicites tuent la détermination de faire quoi que ce soit. Il devient difficile de se concentrer avec détermination sans l'encombrant de cet attachement pervers. Par suite, la focalisation d'une vie normale tarde, en esprit et en geste, à se replacer sur l'exécution des mille et un devoirs de la vie quotidienne. Le mental demeure attaché et pervers, tout devient gaspillé en énergie mentale et conséquences physiques à court et long terme, gaspillage en temps, voire même en argent. En toute sobriété, à quoi ça sert? On peut, Dieu merci, se poser la question. Si l'on a de la chance, on réussira à comprendre qu'il vaut franchement mieux de changer son fusil d'épaule. La fréquentation du mouvement pour la conscience de Krishna est un formidable atout pour nous indiquer la juste voie avec force de philosophie appropriée. Notre lecteur trouvera ci-dessous un extrait d'une classe de Srila Prabhupada sur le Srimad Bhagavatam 6.1.11, en date du 25 juillet 1971 à New York. Le premier paragraphe va directement au but, suivi du principe de brahmacharya ou règle de célibat. La vie d'austérité commence donc par la vie de célibat, brahmacharya. Les descriptions de brahmacharya sont données ici comme vous pouvez exécuter la vie de brahmachari. Comment vous pouvez exécuter la vie de brahmachari? Vous ne pouvez pas penser à la vie sexuelle. Vous ne pouvez pas parler de la vie sexuelle. Vous ne pouvez pas chuchoter à propos de la vie sexuelle. Il existe 8 types de règlements différents pour mettre fin à la vie sexuelle. Mais ces choses sont très difficiles à notre époque. C'est pourquoi nous avons simplement résumé les choses en disant qu'il ne faut pas avoir de vie sexuelle au-delà de la vie conjugale. Ce n'est pas bon. Comment le brahmacharya peut-il être exécuté? Cela est également indiqué ici. Tapasya brahmacharyana samena Srimad Bhagavatam 6.1.13. Samena signifie contrôler le mental. Le système de yoga, Ashtanga yoga, la pratique d'asana, la posture assise, les exercices de respiration, le contrôle des sens à partir d'un engagement extérieur. Pratyahara, ce système de yoga est destiné à contrôler le mental et les sens. S'il n'y a pas de contrôle de l'esprit et des sens, la soi-disant pratique du yoga est bidon. Elle n'a aucune signification. Yoga Indriya Samyama. Le yoga signifie contrôler les sens. Telle est la véritable signification du yoga. Donc, si l'on est incapable de contrôler les sens, j'ai vu dans une institution de yoga à New York des gens qui pratiquaient ces asanas et qui, juste après avoir terminé, fumaient immédiatement. Vous voyez, c'est le contrôle qu'ils ont appris. Tout cela est donc bidon. Ce n'est pas un système de yoga. Le système du yoga n'est pas si facile, surtout à notre époque. Le système du yoga signifie contrôler les sens, contrôler l'esprit. Et contrôler l'esprit signifie que vous devez contrôler tant de choses, votre alimentation, votre sommeil, votre comportement. C'est ce que prescrit la Bhagavad Gita. Comment pratiquer l'Ashtanga yoga? Il faut trouver un endroit approprié, un endroit sacré, un endroit solitaire. C'est pourquoi les vrais yogis ont l'habitude d'aller dans les Himalayas, dans l'Himalaya. Parfois, de jeunes hommes ici dans votre pays me demandent comment aller dans l'Himalaya. Et que ferez-vous là-bas en allant dans l'Himalaya? Vous n'avez donc pas de pratique. Au lieu de pratiquer le yoga dans l'Himalaya, vous pratiquez le yoga ici. Nous sommes venus ici pour vous aider. Le mouvement de la conscience de Krishna est là. Si vous êtes sérieux dans la pratique du yoga, prenez le Bhakti Yoga. Cela viendra. Comment cela se passe dans les prochaines lignes? Cet Ashtanga yoga n'est donc pas possible en cet âge. Sammodhamma, contrôle de l'esprit, contrôle des sens. Parce que personne ne peut pratiquer correctement le système Ashtanga yoga. C'est impossible. Ce n'est pas seulement impossible aujourd'hui, même il y a 5000 ans, lorsque Krishna donnait des conseils sur l'Ashtanga yoga à Arjuna. Arjuna n'était pas un homme ordinaire. Il était l'ami de Krishna. C'était un grand-fils d'une famille royale. Tout le monde connaissait le nom, la renommée d'Arjuna. Il dit donc à Krishna, mon cher Krishna, je ne peux pas accomplir cette pratique de yoga. J'en suis incapable. Arjuna a donc dit franchement qu'il était incapable de pratiquer ce système de yoga. Et nous? Que sommes-nous par rapport à Arjuna? Ce système, Ashtanga yoga, n'est donc pas possible à notre époque. Si vous vous contentez d'apprendre une certaine posture assise artificiellement, cela peut vous donner une chance de bien exercer votre corps. Vous pouvez rester en bonne santé, mais il n'y a aucune chance de réalisation spirituelle par la pratique du Ashtanga yoga à cette époque. Shukadeva Goswami a donc dit Sama signifie Manasa Niyamam. Contrôler le mental. L'activité de l'esprit est l'acceptation. L'acceptation est le rejet. C'est l'affaire de l'esprit. Même si l'on est très élevé, les affaires de l'esprit sont les affaires de l'esprit. Le mental acceptera quelque chose, c'est très bien, et l'instant d'après, il la rejettera. Telle est l'affaire de l'esprit. Mais vous devez fixer votre esprit sur quelque chose que vous ne pouvez pas rejeter. Ce sont seulement les pieds pareils au lotus de Krishna. Si vous fixez votre esprit sur les pieds pareils au lotus de Krishna, alors votre esprit ne peut aller ailleurs. Pratiquez et vous le verrez. Sarvai Mana Krishna Padarivandayo. Srimad Bhagavatam 9.4.18. C'est pourquoi Ambarish Maharaj a toujours fixé son esprit. Notre mouvement pour la conscience de Krishna signifie que nous enseignons à nos étudiants comment fixer leur esprit toujours sur Krishna, d'une manière ou d'une autre. Tel est le système de yoga de première classe.
Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, Suit le Prabhupada sans le dire directement. C'est sûr qu'il fait allusion aux enseignements et aux pratiques de maîtres spirituels qui sont pas vraiment qualifiés dans l'âge de Kali. Pourquoi on juge par les résultats, à savoir que un disciple fait de la méditation, comme Prabhupada dit, puis après il s'en va fumer. Alors, c'est qui lui a montré ça? Il y a quelqu'un qui lui a enseigné que c'est correct? Alors, la même chose en ce qui concerne quel genre de diète quelqu'un va avoir s'il fait du yoga. Ce n'est pas n'importe quoi que tu peux manger. Et si on se fie que c'est la Bhagavad Gita que il faut suivre, alors qu'est-ce qu'il faut manger d'après la Bhagavad Gita? La question est posée.
C'est qu'est-ce qu'on peut offrir à Krishna? De l'eau, une fleur, une feuille. Il accepte.
Oui, exactement. Et si quelqu'un n'offre pas sa nourriture à Krishna, qu'est-ce qui arrive?
Bogus,
Le
c'est du...
péché. Ce n'est que du péché. Péché, c'est du
Ouais.
péché.
C'est ça. Alors, c'est dans le chapitre 3 de la Bhagavad Gita. Chapitre 3, verset 13, verset 14, dans ce coin-là, là, que Krishna dit la nourriture qui est le fruit d'un objet de sacrifice. Cette nourriture qui est offerte en sacrifice, ça c'est une nourriture qui purifie, qui affranchit des fautes que l'on peut encourir lorsqu'on mange. Alors, si la nourriture est offerte à Krishna, c'est une nourriture qui purifie. Autrement, c'est une nourriture qui lie l'être vivant à la matière et son séjour dans le monde matériel ne va qu'en être prolongé. Est-ce que d'autres questions, commentaires? Alors, un autre point
En
qui
fait,
est...
Prabhu, tant qu'on aime les choses du monde, c'est logique de rester dans le monde, en fait, dans le monde matériel. C'est comme tu disais, on disait, c'est celui qui n'offre pas ses repas à Krishna, qui ne fait pas de service, qui ne, c'est tant qu'on n'a pas, on n'a pas passé le cap, qu'on n'est pas sur le chemin de la dévotion. En fait, on reste dans le monde matériel et parce qu'on aime les choses, on est attiré, et on continue. Enfin, c'est juste pour étayer ce que tu disais, c'est un peu ça, quoi, en fait.
Oui, attraction, répulsion pour les objets des sens. La conscience de Krishna, c'est à un niveau supérieur. C'est
Ça.
au niveau de ce que doit faire l'âme spirituelle, c'est-à-dire de penser à Krishna et s'engager au service de Krishna. Alors, pour un dévot, un bon dévot, il n'y a pas de différence à être dans le monde matériel ou dans le monde spirituel à cause de son attitude de service de dévotion. C'est du pareil au même pour un dévot. Alors, et c'est basé sur quoi ça? C'est basé sur l'acceptation que Krishna est le possesseur suprême. Il est le créateur suprême, le possesseur suprême. Il possède tout. Et par conséquent, tout ce qui existe devrait être engagé au service de Krishna. Alors, dans cette conscience-là, un dévot est pratiquement libéré des influences de l'énergie matérielle. Mais ça prend de, comment on peut dire, ça prend de l'association aussi. Parce que l'énergie matérielle est très puissante. Alors, c'est pourquoi c'est recommandé aussi que les dévots s'associent avec d'autres dévots pour justement être fort spirituellement parlant. Alors, l'exemple que Prabhupada donne, c'est l'exemple de l'étincelle. L'étincelle, aussitôt qu'elle tombe en dehors du feu, elle perd sa puissance. C'est fini. Mais si l'étincelle reste dans le feu, à ce moment-là, elle a toutes ses propriétés de lumière, de chaleur, ainsi de suite, mais en quantité minime. Alors, l'être vivant est fait justement pour rester dans le feu de la conscience de Krishna. C'est pourquoi Prabhupada a créé le mouvement pour la conscience de Krishna, pour créer une atmosphère, une association bien terre à terre, pour que les dévots se rassemblent et ils adorent Krishna. C'est une des... Prabhupada, quand il a fondé le mouvement ISKCON, il y avait des critères, des principes fondamentaux. Et un des principes, c'est justement que les membres se réunissent et ils adorent Krishna. Alors, ça, c'est les dévots de Krishna. Alors, un dévot, même si il n'est pas proche de d'autres dévots, il a quand même un devoir vis-à-vis Krishna d'être conscient de Krishna. C'est ça, comment on peut dire, l'implication de connaître la conscience de Krishna, c'est que ce n'est pas une farce, là. C'est pas quelque chose qui dure 5 ou 10 minutes, puis après ce yoga-là est fini, on passe à autre chose. Ça marche pas comme ça. C'est 24 heures par jour. Et par la grâce de Krishna, c'est faisable qu'un dévot pense qu'il essaie du mieux qu'il peut de penser à Krishna. C'est faisable. On le pratique tous les jours. C'est pourquoi il y a les principes régulateurs. Il y a le chant du Mahamantra. Il y a si quelqu'un vit à proximité d'un temple et qu'il visite le temple, il y a les déités, il y a les dévots, il y a les classes, il y a le prasad, etc., etc. Et ça, c'est la vie consciente de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
J'ai oublié les livres, Prabhu. Et aussi les livres, c'est qui nous
Oui.
tient toujours en contact avec Krishna. Les livres de Prabhupada qui est tout traduit pour nous.
Exactement. Il y a les livres, il y a les films, il y a les classes de Prabhupada qui ont été filmées aussi. Alors, tout ce qui a trait à la conscience de Krishna que Prabhupada a donné, c'est pour notre bénéfice spirituel. Voilà. Questions, commentaires?
Je lisais dans le Bhagavatam tantôt que peu importe où le dévot se situe, en enfer ou au ciel, pour lui, ça va être la même chose.
Exactement. Et c'est dit aussi, l'enfer avec Krishna, c'est le ciel. Et le ciel sans Krishna, c'est l'enfer. Alors, tout est dans la vision d'un dévot. Et ça demande vraiment, c'est facile à dire, mais ce n'est pas si facile que ça, à avoir, si on peut dire, une vision qui est en harmonie avec ça. C'est pas si facile que ça. Moi, je me souviens quand j'étais en Allemagne, à Hambourg en particulier, je trouvais ça difficile. J'étais un nouveau dévot à l'époque. Et puis, on suivait notre horaire de tous les jours, aller chanter dans la rue, et revenir au temple, etc. Il y avait l'association des dévots. Et disons que quand tu es dans un pays étranger que tu connais pas, là, faut que tu t'habitues. Et puis, c'était pas évident, évident, mais on a passé à travers. Et ça demande la grâce de Krishna. Même si on est entouré de dévots, ça demande la grâce de Krishna pour avoir un enthousiasme qui transcende, disons, les circonstances externes. Et ça, c'est pas juste durant la vie, c'est en particulier au moment de quitter le corps. Comme Prabhupada a expliqué dans ses livres, il y a une prière du roi Kulashekar qui demande à Krishna, maintenant je suis en bonne santé. Alors, si je peux quitter ce corps-là immédiatement, mon mental va être fixé sur vos pieds pareils au lotus, et puis ça va être parfait comme ça. Mais alors, il dit cette prière-là en présupposant qu'au moment de la mort, les fonctions du corps sont en détérioration et c'est très dérangeant. C'est très troublant pour la majorité du monde. Mais par contre, un dévot de Krishna, il a un enseignement qui le guide et qui lui fait garder, malgré tout ce qui se passe avec le corps, qui le fait garder son mental concentré sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Alors, ici, aujourd'hui, on a touché à un point très important. Prabhupada qui dit, on peut fixer son esprit sur bien des choses, mais ça va finir par cesser. Par contre, si on fixe notre esprit sur les pieds pareils au lotus de Krishna, seul le mental ne peut pas rejeter. Alors, ce que Prabhupada a expliqué là, aujourd'hui, les fonctions du mental sont acceptées et rejetées. Alors, le mental accepte quelque chose à un instant donné, et un instant d'après, la même chose qu'il a acceptée, il la rejette. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Avez-vous expérience de ça?
J'ai fait l'expérience de ça, oui, après-midi, en faisant ma vaisselle.
OK.
J'étais heureux, mais finalement, j'ai été tracassé par des idées sexuelles.
OK.
Alors, là, mon mental, par ma volonté, j'ai rejeté l'attrait sexuel que mon mental acceptait facilement.
Alors, ça, c'est un vieux problème. C'est l'humanité qui est prise avec ça. Et c'est le chant du Mahamantra qui fait la différence là-dedans.
Alors,
S'attacher à
j'ai
chanter.
mon mental sur les pieds pareils au lotus de Krishna. C'est ce qui fait la différence. C'est que j'étais en état de grâce. Vous demandez la grâce de Krishna.
Exactement. Exactement. Et il faut aussi avoir une certaine philosophie, à savoir qu'à l'âge qu'on est rendu là, ouais, on peut se poser la question, c'est quoi le point, là? T'sais, c'est le mental. Le corps, c'est une chose. Le mental, c'est une autre chose. Mais si on prend refuge du pur dévot, puis qu'on cherche à plaire au pur dévot, ces choses-là vont s'atténuer. Donc, Prabhupada disait aussi que un des signes de notre avancement spirituel, c'est dans la mesure où on perd cette attraction pour la vie sexuelle. Alors, il y a des, comme c'est expliqué ici aujourd'hui, on a lu le Srimad-Bhagavatam, qui, le premier paragraphe, là, à la page 34, qui parle justement des principes de Brahmacharya. Alors, c'est dit ici, pour un Brahmachari, non? Vous ne pouvez pas penser à la vie sexuelle, vous ne pouvez pas parler de la vie sexuelle, vous ne pouvez pas chuchoter à propos de la vie sexuelle. Il existe 8 types de règlements différents pour mettre fin à la vie sexuelle, mais ces choses sont très difficiles à notre époque. C'est pourquoi nous avons simplement résumé les choses en disant qu'il ne faut pas avoir de vie sexuelle au-delà de la vie conjugale, ce n'est pas bon. Alors, la théorie, elle est là. Les principes sont là. Et ça prend la grâce de Krishna pour justement être capable de vivre la différence. Ça prend la grâce de Krishna. Et alors, où est-ce qu'elle est, la grâce de Krishna, en ce qui concerne la vie sexuelle? Ça, c'est une bonne question. En particulier dans la Bhagavad Gita.
Je comprends pas la question.
En ce qui concerne la vie sexuelle, où est-ce qu'elle est, la grâce de Krishna, comment on peut dire, qui fait le point sur le sujet et qui, en fait, arrête la discussion? Ça, c'est la grâce de Krishna. C'est qu'en d'autres mots, il n'y a pas de contournement, il n'y a pas de compromis à faire. Qu'est-ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita? Si ma mémoire est bonne, c'est dans le chapitre 7, verset 11, où Krishna...
C'est
Pardon?
réservé au Guhyashtra, dans le cadre, avec beaucoup de régulation, dans le cadre de la conception d'un enfant, dans le cadre de la conscience de Krishna.
Oui, c'est
Conscience,
ça,
donc voilà,
c'est ça.
c'est ça. Mais juste dans le cadre du Guhyashtra et que pour la conception d'un enfant, même un couple marié, c'est pas comme on l'avait lu une fois, sexe à gogo, je sais plus dans quel commentaire on avait vu ça.
Oui, c'est en plein ça. Alors,
Ouais.
ce que Krishna dit, il dit, je suis la vie sexuelle qui n'est pas contraire aux principes de la religion. Ça, c'est ce que Krishna dit. Alors là, Krishna nous met ça dans les mains, puis là, il arrête de parler. Alors, c'est à nous après de prendre ce que Krishna vient de dire et de s'en rappeler, et de s'en rappeler, et de s'en rappeler, de se le remémorer, puis demander à Krishna, je voudrais m'abandonner à ce principe-là. Et là, c'est la grâce de Krishna qui va réciproquer avec nous en fonction, évidemment, de notre sincérité. Alors, la conscience de Krishna, c'est comme ça. Alors, comme c'est dit, la conscience de Krishna est comparable à la lumière et Maya est comparable à l'obscurité. Là où il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Ben, là où il n'y a pas de lumière, ben, c'est évident qu'il y a une obscurité, là. Mais c'est à nous de prendre refuge des instructions de Krishna. Et puis, s'il y a un problème quelconque, ben, c'est s'accrocher à qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a entendu, demander à Krishna, s'il vous plaît, j'aimerais bien que j'arrive à m'abandonner à ce principe-là. Et puis, par la grâce de Krishna, ça va devenir possible. dans une façon ou d'une autre, puis Krishna donne toujours l'intelligence adaptée à chaque individu pour avoir des réalisations qui vont dans la bonne direction. Et puis à un moment donné, ça devient ça fait partie de la vraie nature du dévot. Alors, comme Prabhupada, il a écrit aussi que je suis pas capable de le dire dans les mots exacts, là, mais le principe, c'est ça, là. À savoir que les activités pécheresses, disons, que peut connaître une âme conditionnée, ce n'est pas sa vraie nature. Se défaire de ses tendances aux activités pécheresses, c'est un travail en soi et qui va arriver à un point où la vraie nature de l'âme spirituelle va prendre le dessus, va être manifestée. Est-ce que c'est clair?
Juste pour bien comprendre celle-ci, on vit à travers notre vraie nature, on est des âmes éternelles spirituelles et qu'on ne porte pas attention au désir du corps. C'est là que, veux dire, la matière n'a plus l'effet de nous étouffer dans l'illusion. Un
Exact.
peu dans cette.
Oui, comme Prabhupada,
OK.
il écrit dans la Bhagavad Gita que le désir est une forme subtile de conditionnement matériel. Alors, un dévot de Krishna est dit, disons en sanskrit, là, akama. La concupiscence est décrite par le mot sanskrit kama, c'est-à-dire avoir des désirs. Mais akama ou nishkama, c'est la même chose. Akama ou nishkama, ça veut dire il n'y a pas de désir. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le dévot n'a pas de désir de satisfaction personnelle. Alors, c'est quoi la satisfaction que le Quel genre de satisfaction un dévot va chercher?
Servir à Krishna.
Servir Krishna. Faire du service pour Krishna. Essayer de plaire à Krishna. Essayer de plaire au maître spirituel.
Voilà.
Et ça, ben c'est la vie spirituelle qui est comme ça. C'est impossible de ne pas avoir de désir. C'est impossible. Par contre, c'est dit. Servir Krishna, vouloir plaire à Krishna, ça c'est le désir par excellence avec lequel l'âme peut vivre avec. Alors c'est considéré que ce désir-là, c'est la même chose que de n'avoir aucun désir. Le désir de plaire à Krishna. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, par la grâce de Krishna, par la grâce du maître spirituel, les principes régulateurs peuvent être plus faciles à suivre si on s'abandonne, on accepte de suivre les principes. Ça devient plus facile. Et s'il y a une difficulté quelconque, ben, il faut être patient et puis s'accrocher. Et par la grâce de Krishna, ben, ça va se passer.
Un petit peu ça, c'est Krishna a dit, c'est ma chambre bataille à Abuja. C'est son mental, c'est moi.
Exactement. C'est la beauté de la conscience de Krishna. Arjuna est un militaire. Il ne peut pas faire autrement. Krishna dit, même si tu veux éviter le combat, c'est ta nature, tu es un militaire. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme quelqu'un est un médecin. Il voit du monde autour de lui qui souffre, qui sont malades. Il ne peut pas s'empêcher d'être un médecin. Parce que c'est ça, il a cette formation-là. Ah, c'est la même chose. Pour quelqu'un qui est conscient de Krishna, peut pas s'empêcher de voir les choses en relation avec Krishna, puis d'essayer de plaire à Krishna. Alors, une façon aussi de plaire à Krishna, ben, c'est de voir, d'avoir une vision spirituelle. Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui voit d'un œil égal tous les êtres vivants. C'est-à-dire qu'il voit les êtres vivants en relation avec Krishna, selon la relation qu'ils ont avec Krishna. Alors, il y a un dévot que je connais bien, un ami, un dévot de Krishna, de longue date. Puis, aujourd'hui, il est swami. Il n'a pas toujours été swami. Il était marié, il avait une femme, il avait un garçon. Et puis, lui, il disait, ça par la suite, après qu'il soit devenu swami, là. Mais quand même, je suis pas mal sûr qu'il avait déjà la réalisation avant même d'être un swami. À savoir, il dit, tu vois ton épouse comme une servante de Krishna. Et à ce moment-là, tu n'auras jamais de problème. Mais ça, c'est la vision. La vision de voir tous les êtres en relation avec Krishna. Et soi-même, on a une relation avec Krishna. Qu'est-ce qu'on est au plus profond de notre fond? Qu'est-ce qu'on est vraiment, là? Est-ce
On
qu'on
est au
est...
service.
On est une âme spirituelle, serviteur éternel de Krishna. C'est ça que l'on est. Alors, si on a disons, de la compassion pour soi-même, ben, on va essayer d'agir en fonction de cette vision-là. Et puis, c'est ça, non? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? OK. Alors, on va continuer avec l'autre principe. Madhavananda, un paragraphe, s'il vous plaît. Page 35.
J'ai pas réussi à ouvrir mon petit iPad. Je suis avec le téléphone, puis c'est vraiment
C'est trop petit.
micro. Oui, c'est trop
OK.
petit.
OK. Je vais en lire un petit bout, donner un petit break à Virginie. Alors, voilà. Alors, on est à la page 35, principe B. Ne pas manger de viande. La souffrance humaine a quelque chose à voir avec la consommation organisée de la chair animale. Les abattoirs sont là et les guerres se transformant en véritables boucheries humaines sont là par voie de conséquence. C'est très difficile à comprendre pour les mangeurs de viande d'y voir une conséquence karmique quelconque. La viande obscurcit le cerveau dès les premières bouchées. Quand le cerveau fait défaut, tout est foutu. Cependant, tout n'est pas totalement perdu, car pour remédier à la situation, c'est au final que l'écoute d'un pur dévot qu'il faut. Les paroles d'un pur dévot ont pouvoir de purifier le cœur de toute âme conditionnée, égarée par les ténèbres de l'ignorance. Parmi tant d'âmes égarées, une rare âme des plus fortunées profitera de l'écoute des propos d'un pur dévot et corrigera sa vie. Pour le reste, le karma et le temps feront leur œuvre. Alors, ça, on peut dire que la grâce de Srila Prabhupada, ça a été de sauver combien de dévots ou de dévotes, d'âmes conditionnées, justement de la vie conditionnée dans laquelle il y a tellement de consommation de chair animale à tous les jours, à tous les repas. Ils connaissent pas grand-chose d'autre. Pour eux autres, ils ont toutes sortes d'excuses, toutes sortes de raisons pour le statu quo, à savoir que oui, on peut, puis avec donc. Pardon?
Du papier, sa fille.
Oui, exactement. Et le sens de discrimination pour quelqu'un qui ne, qui dans le fond, ne contrôle pas sa langue. Son sens de jugement, c'est quoi? Ça repose sur quoi? La question est posée.
La tentation, les désirs de goût, de sensoriel, c'est sur le corps.
Exactement. Alors, le point de jugement, c'est si ça goûte bon, c'est bon. Si ça goûte pas si bon que ça, ben, peut-être va falloir vivre avec. Mais le principe, c'est pourvu que ça goûte bon, c'est bon. Alors, à ce moment-là, tu peux te payer n'importe quoi.
Oui,
Alors, tu vas dans les épiceries. Et tu vas dans les, les services d'alcool. Et c'est basé sur ce principe-là. Pourvu que c'est bon, c'est bon. Et il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'analyse. Quelles seront les conséquences de ce que je vais consommer?
non, et puis justifié aussi par tous ces diététiciens, nutritionnistes et tout pendant des décennies et décennies où on te disait il faut des protéines, il faut des protéines, il faut des protéines. Donc oui, d'accord, ok, il faut des protéines, mais en fait non, c'était on nourrissait une industrie comme c'est écrit là, hein, la consommation organisée, le mot organisé est très important, hein,
Ouais.
c'est
Ouais, ça.
C'est tout un gros, gros, gros business, hein. Aujourd'hui, la France, l'Europe va recevoir des centaines de tonnes de carcasses de bœufs qui viennent venir d'Amérique du Nord, de chez vous. C'est une catastrophe, en fait. On fait n'importe quoi. Les humains font n'importe quoi avec les animaux. C'est
Ouais. Et
Il y a une chose
c'est
que j'ai entendue.
ouais.
Pardon. Excusez. Ils mettent des humains maintenant dans les hamburgers McDonald's. C'est vraiment passé aux nouvelles, plusieurs nouvelles, pas les mêmes médias, là, mais tous les cadavres qui meurent, le monde qui meurt, ils les jettent pas, ils les vendent à les boucheries pour hamburgers. C'est vraiment... C'est dur.
Ouais. Alors, je me souviens quand j'étais à Paris. À Paris, disons que les Français, ils ont le tour de s'organiser. Et quand ils ont le tour de faire les choses en grande, c'est le génie français. Et à Paris, ils ont ce qu'ils appellent les halles. Les halles de Paris. Et il y a justement, il y a une section d'abattoir là-dedans, là. Et c'est immense, c'est grand, c'est gros, et c'est organisé. Alors, des fois, la grâce de Krishna, parfois, même dans ces endroits-là, peut se manifester. Il y a un dévot, il avait raconté un dévot de Sankirtan, justement, qui avait raconté que il s'est ramassé sans le savoir au milieu d'un abattoir. Je sais pas comment il a fait son compte. Puis il y a quelqu'un qui est venu le voir, le dévot. Puis le dévot, évidemment, qui était là pour distribuer des livres. Et puis la personne qui est venue le voir lui dit, ah, c'est ce livre-là que je cherchais. Alors imagine, le dévot dans l'abattoir, il y a quelqu'un qui vient te voir, qui s'en vient dire, hey, c'est ce livre-là que je cherchais. Évidemment que le dévot, il a refilé le livre. Ça devait être une Bhagavad Gita ou je sais pas quoi de Prabhupada. Mais ça, c'est la grâce de Krishna Qui aurait dit, le dévot va être là. Il s'en est pas trop rendu compte comment il a fait son compte. Puis là, il y a quelqu'un qui avait besoin du livre, s'en vient chercher le livre. Mais c'est la grâce de Krishna. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, quand Krishna veut, disons, décrocher quelqu'un de la vie conditionnée, c'est impossible de battre le plan de Krishna. Krishna va accomplir sa volonté. Alors, la volonté de Krishna, qu'il y ait justement des millions d'âmes qui commencent à allumer sur le côté néfaste de consommer de la chair animale, c'est qu'il y a les livres de Prabhupada qui ont été distribués par millions à travers la planète, qui font leur petit bonhomme de chemin pour convaincre les gens d'abandonner cette mauvaise habitude-là. Et comme vous savez, par exemple, à Los Angeles, qu'on peut dire, c'est là le siège social de ISKCON, c'est à Los Angeles, en Occident, et ça fait des années, des années, des années que les dévots, excusez, distribuent des livres à Los Angeles, dans les aéroports, etc. Et dans les années 70, en tout cas, à un moment donné, il disait que à Los Angeles, la proportion de restaurants végétariens est montée jusqu'à 40%. Ça, c'est quelque chose. Alors, si ce n'est pas plus aujourd'hui, parce que le mouvement, justement, fait la promotion du végétarisme sans nécessairement que ça soit direct, mais à travers les livres de Prabhupada, comment tu veux ne pas voir qu'il y a un côté végétarien à l'alimentation consciente de Krishna? Ça, c'est la grâce de Prabhupada. Et il y a quelque temps de ça, j'écoutais un film et que je suis pas supposé, mais j'ai écouté pareil. Et dans le film, un acteur bien connu qui parle avec un, c'est deux détectives, en fait. Et il y en a un qui est chez lui et qui est en train de se faire réchauffer de la nourriture, tu sais, comme dans, tu mets ça une barquette en plastique. Tu mets ça au micro-ondes, tu sors de 1 minute ou deux, puis ensuite tu manges. Alors, l'acteur principal, il dit à l'autre, il lui dit, qu'est-ce que t'es en train de manger là? Une bouffe à la Krishna? Alors, sans qu'il le sache, il a prononcé, en voulant faire comme une espèce de sarcasme, il a prononcé justement Hare Krishna. Puis deuxièmement, ça fait allusion aussi que les dévots à Londres sont très populaires. Ils ont au moins un restaurant, si c'est pas plus, très connu, et qu'ils ont une influence. Ils influencent la société avec cette promotion, justement, de la cuisine végétarienne. Alors, à un moment donné, ça fait surface. Ça devient comme un fait établi dans la culture. Ça fait partie de l'environnement. Alors, c'est comme les dévots à Londres. Tous les week-ends, ils vont chanter en public. Alors, et ils prennent la place. Ils sont visibles, ils prennent la place, ils sont nombreux. Alors, ça, c'est beau à voir. Est-ce que c'est pas tous les endroits dans le monde où les dévots peuvent justement se planter là, à un endroit, laisser la foule s'assembler autour d'eux, puis laisser la foule. À Londres, c'est comme ça. Les gens embarquent dans le kirtan. Les gens viennent danser avec les dévots. Que ce soit des garçons, des filles. Alors, t'as les dévots, je sais pas, moi, ils sont une quinzaine, une vingtaine, puis là, t'as une foule autour. Ils sont au moins peut-être au moins 20, au moins 30, au moins 40, peut-être plus. Puis le monde chante. Puis là, à un moment donné, les dévots bougent de place parce que, justement, il faut qu'ils fassent plaisir aux commerçants devant son magasin, ils sont restés là, je sais pas, moi. Une demi-heure, trois quarts d'heure, qu'ils comprennent le message. Là. Quand l'autre vient dire, OK, pouvez-vous aller ailleurs? Il y a des grandes rues à Londres, comme Oxford Street, c'est la plus
Je les
grande
ai.
rue au monde. Alors, ils ont de la place en masse pour chanter, circuler, puis répandre les saints noms. Ça, c'est la grâce du Seigneur Chaitanya. Et distribuer des littératures, justement, il va y avoir les quatre principes qui sont expliqués, c'est immanquable.
Ouais, je les ai vus, moi, en 1987. Ce que tu dis là, je l'ai vécu en 1987. Un grand kyotan. J'étais à Londres en 1987 et c'est la première fois. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur le mouvement parce que j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait. Extraordinaire.
Ouais,
J'allais au
exactement.
travail ou je sortais du travail. J'ai travaillé sur High Street, Kensington et je fais que une ruée orange comme ça dans la rue avec du son, des tambours, de la musique, le chant du mantra. Je savais pas ce que c'était moi à l'époque. Franchement, c'est comme tu dis, c'est comme tu l'as décrit, c'est exactement ça en fait.
Ouais, c'est exactement ça. Et on peut voir justement sur Internet, si on fait une petite recherche, les dévots de Londres, je sais pas moi, Sankirtan, Saturday Night, Sankirtan
Ouais,
à
je regardais ça.
London, tu vas tomber sur quelque chose.
Ah ouais, mais souvent je regarde.
Ouais. Et puis, c'est extatique, c'est extraordinaire, c'est l'association des dévots. Et ça, ben, c'est dans le monde entier. Et
Puis je pense
c'est...
indirectement aussi que ça a influencé, parce qu'il y a quelque chose aussi qui fait beaucoup pour le végétarisme aujourd'hui, c'est le mouvement vegan, avec la souffrance animale.
Ouais, il y a ça aussi.
Indirectement, je pense que les nouvelles générations ont été influencées par leurs parents qui ont peut-être eu contact, comme tu disais, à des livres de Srila Prabhupada et ils ont grandi avec ça, en fait, en se disant, mais c'est pas possible qu'on massacre des animaux comme ça, nos animaux, ils sont comme nous, ils ont pas, ils doivent évoluer. Moi, je reçois beaucoup de posts et de choses comme ça par rapport à ça et souvent les slogans, c'est, mais ils ont le droit de vivre de leur belle vie et de mourir de leur belle mort comme tout le monde. Arrêter d'assassiner les animaux, enfin voilà. Donc je pense que ça a beaucoup influencé aussi le mouvement actuel là qui monte le véganisme.
Oui, et Prabhupada, lui, dans ses livres, il a enseigné c'est quoi la différence entre les animaux et les êtres humains. Les animaux mangent, les êtres humains mangent, les deux dorment, les deux se reproduisent, les deux se défendent, il n'y a pas de différence.
Non.
Alors pourquoi massacrer inutilement, juste pour les papilles gustatives, les animaux, quand c'est vraiment pas nécessaire. Et comme Prabhupada aussi a expliqué souvent, que lorsqu'il y a en quantité suffisante des fruits, des légumes, des céréales, des grains, des produits laitiers, où est la nécessité d'avoir des abattoirs? Alors, il faut vraiment avoir une mentalité moins
Démoniaque.
qu'humaine.
Démoniaque. Pour moi, c'est
Ouais,
démoniaque.
pour persister que non, c'est pas, c'est dans la direction que la société a accepté, ça c'est bon. Alors, c'est l'âge de Kali, les bonnes choses sont pas bonnes, puis les mauvaises choses sont bonnes. C'est typiquement l'âge de Kali.
Oui.
Alors, est-ce que des questions, des commentaires? Bon, on va continuer la prochaine fois. Alors,
Bon.
à moins que vous
Allez.
ayez des questions, des commentaires, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'être venu au
Merci
cours.
beaucoup à vous et
Merci.
soignez-vous.
Ouais.
Voilà. Bonne continuation sur le chemin de la guérison. Hare Krishna.
Oui, j'en ai bien besoin.
À mercredi
Voilà.
prochain.
À mercredi prochain et
Oui,
samedi pour
Haribol.
l'autre cours.
Oui, mais dans l'autre
Merci.
samedi.
Hare
Oui,
Krishna,
l'autre samedi.
Haribol.
Dans 2 semaines, c'est ça
Voilà.
le
Le
prochain
prochain
cours.
rendez-vous, c'est mercredi. Hare Krishna, Haribol.
Haribol, merci beaucoup.
Allez.
Hare Krishna.
Hare
Jai.
Krishna.
Jai, bye.
Ouais, bonne semaine.
Haribol.
Hare
Hare Krishna,
Haribol.
Hare Krishna.
Haribol. Jai. Bye, les gens.
Au revoir.
Oui. Allez, bon. Ça comme ça.